Diabète et voyage. Comment voyager quand on est diabétique? Un thème captivant sur lequel Elsa, de l'association Les DS Sucrées, nous partage son expérience. Elle nous emmène à travers ses nombreux voyages et nous fournit toutes les informations essentielles pour voyager sereinement en tant que diabétique. Bienvenue sur le podcast Vivre le diabète à la recherche de l'équilibre. Je suis Nathalie, diabétique de type 1 depuis février 2010. Je m'adresse à toi qui viens de déclarer un diabète, à toi qui es diabétique de type 1 ou de type 2, ou à toi qui es en pré-diabète, mais aussi à toi qui soutiens et aide, que tu sois parent ou conjoint, etc. Je m'adresse également à toute personne désireuse de savoir ce qu'est le diabète vu par une patiente diabétique. Je te laisse maintenant avec l'épisode du jour. Bonjour Elsa, je suis trop heureuse de te retrouver pour ce sujet passionnant, diabète et voyage. Comment voyager quand on est diabétique?
Bonjour!
Elsa, peux-tu te présenter?
Oui, alors moi c'est Elsa, donc j'ai 32 ans, je suis franco-vénézuélienne et diabétique de type 1 depuis l'âge de 17 ans. Donc je suis déjà à ma 15e année de diabète. Je suis vice-présidente de l'association Les DS Sucrées que j'ai cofondée avec ma chère amie Chloé Néer. C'est une association de patients à but non lucratif qui œuvre pour la santé mentale et le soutien psychologique des femmes diabétiques de type 1. Sur les réseaux sociaux, on me connaît comme ce type de nana. Je partage du contenu positif et inspirant autour de la maladie. Et à part ça, je suis fan de voyage, voilà, je suis pas là pour rien. Et de musique, de danse latine, et je suis quelqu'un qui croque la vie à pleines dents.
Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi et comment les voyages sont entrés dans ta vie?
Oui, alors en fait, le voyage a toujours fait partie de ma vie. Je voyage depuis que je suis toute petite. Du fait que je suis franco-vénézuélienne, j'ai toute une partie de ma famille maternelle qui est à l'autre bout du monde. Donc, j'ai pris l'avion pour la première fois quand j'avais 8 mois. Et ensuite, j'ai eu l'habitude depuis enfant de prendre l'avion tous les ans pour rendre visite à ma famille, que ce soit au Venezuela, en Argentine, aux États-Unis ou en Espagne. J'ai de la famille un petit peu partout. Quand le diabète est rentré dans ma vie, c'est plutôt lui qui est rentré dans ma vie plutôt que les voyages qui étaient déjà là. Et je me suis même pas posé la question. Le diabète est arrivé à 17 ans. 6 mois plus tard, je devais partir au Venezuela pour mon voyage annuel, voir ma famille. Et sans me poser de questions, j'ai mis dans ma valise tout mon matériel médical que j'ai doublé. À l'époque, j'étais sous stylo et sous bandelette de glycémie. Et je suis partie faire mon voyage avec mon matos dans la valise. Et après, petit à petit, en grandissant, j'ai développé des techniques et des tactiques organisationnelles pour voyager léger avec mon diabète.
Alors, tu nous as dit que tu es partie au Venezuela. Et ensuite, quel voyage as-tu fait?
J'ai eu la chance de beaucoup voyager. Donc déjà, par le fait que j'avais de la famille un peu partout dans le monde. Et puis, évidemment, comme le voyage a été intégré très tôt dans ma vie, c'est devenu rapidement une passion. Donc, dès que j'avais l'âge de travailler, mon seul objectif dans ma vie, c'était mettre des sous de côté pour voyager. Donc, typiquement, à 19 ans, je suis partie en Erasmus. Je suis partie 6 mois à Madrid. À 21 ans, j'ai fait le tour d'Europe. Donc, j'ai fait les pays classiques, Angleterre, Espagne, Italie, France, un peu de fond en comble. À 25 ans, là, ça a été mon plus gros challenge voyage. J'ai fait le tour du monde. Donc, je l'ai pas fait toute seule. Je l'ai fait avec mon ex-compagnon. Et on est parti 9 mois en sac à dos. On a visité 15 pays. Donc, si je peux vous faire un peu rêver, je vous dis la liste. On est allé en Inde. On est allé on a commencé par l'Asie du Sud. Donc, Inde, Myanmar, qui est l'ex-Birmanie. Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Hong Kong, Chine, Japon, Nouvelle-Zélande. Et puis ensuite, là, on a fait vraiment le tour du globe avec l'avion. On est allé en Argentine et on a fait toute l'Amérique du Sud, du sud au nord. Donc Argentine, Chili, Bolivie, Pérou et Colombie. Le périple devait se terminer au Venezuela, qui est mon pays de famille. Et malheureusement, à cette époque, il y avait des gros problèmes politiques, donc on n'a pas pu finir là. Ça a été 15 pays faits en sac à dos, en mode route 100%, avec des trains, des bus, des avions de temps en temps, mais surtout par voie terrestre. Et après, j'ai pas mal voyagé aux États-Unis, j'ai fait des îles connues d'Espagne, d'Italie, je suis allée au Maroc, en Israël, et j'ai aussi visité seule la République dominicaine et une partie de l'Italie. En tout, j'ai compté le palmarès, on est autour de 25 pays depuis ma naissance. Et puis là, mon dernier voyage en date, c'est un voyage long terme parce que j'ai quitté ma ville natale Lyon pour m'installer en Guadeloupe. Voilà, je réponds à cette interview avec les cocotiers en face de moi et ça fait 5 mois que je suis installée dans cette magnifique île et je suis très très heureuse d'avoir sauté le pas d'aller m'installer ailleurs, même avec mon diabète.
Oui, c'est ça l'important, c'est que tu pars, tu voyages avec ton diabète. Et justement, comment organises-tu tes voyages? Voilà, avec le côté voyage et côté diabète.
Ouais, alors c'est très simple. Tout d'abord, je ne pense qu'au voyage. En fait, peut-être un peu bizarre dit comme ça, je sais pas si tous les diabétiques pensent pareil, mais moi j'oublie souvent que je suis diabétique. Dans tout, dans mes passions, ma vision de la vie, dans mes objectifs, dans mes challenges et dans mes voyages, à chaque fois que je pense à faire un truc, je pense d'abord à ce truc, à cette envie, à qu'est-ce qui me fait envie de faire. Et après, dans un deuxième temps, quand je suis dans le pratico-pratique, là, je me dis « Ah mince, c'est vrai que je suis diabétique. Il va falloir organiser un peu le matos. » Mais comment je planifie mes voyages? Dans un premier temps, je cherche quel type de pays j'ai envie de visiter pour des raisons culturelles, historiques, humaines ou spirituelles. Et j'organise d'abord le voyage en lui-même, donc billet d'avion, hôtel si je prends un hôtel ou auberge jeunesse, je fais tout mon petit circuit, comme une personne lambda qui n'aurait pas de pathologie. Et une fois que ça c'est fait et que du coup le squelette du voyage est mis en place, là je vais réfléchir à comment mon diabète va pouvoir me suivre dans cette aventure. Et du coup je trouve que c'est pas mal parce que le fait d'avoir un squelette de voyage permet aussi de bien préparer la partie logistique matérielle, surtout quand on part sur des longs voyages. Donc je conseille toujours de d'abord penser à ce qui nous fait envie et ensuite on adapte le diabète.
Donc du coup, le traitement, le matériel, est-ce que tu souscris à des assurances? Est-ce qu'il y a des précautions à prendre pour transporter le traitement, c'est-à-dire l'insuline, le matériel? Comment tu approvisionnes au niveau du traitement si le voyage est très long? Comment tu stockes? Comment ça se conserve? Voilà, est-ce que tu peux nous faire une petite liste, si je puis dire?
Oui, c'est vrai, c'est toutes les questions qu'on se pose au moment de partir en voyage. La première question que je me pose, c'est est-ce que mon voyage va durer moins ou plus de 3 mois? Et je vais vous expliquer pourquoi je prends cette période de 3 mois. Si je pars moins de 3 mois, la réponse est simple, je prends tout mon matériel sur moi, insuline et tout ce qu'il va falloir pour ma pompe, si je suis sous pompe, ou mes aiguilles, etc. Si je pars plus de 3 mois, là, on va vraiment mettre en place une stratégie de ravitaillement de son matériel tout au long du voyage. Et pourquoi je mets le curseur aux 3 mois? Parce qu'en fait, 3 mois, c'est le temps où l'insuline est efficace en dehors du frigo. Peut-être que les diabétiques qui m'entendent souvent quand on va à la pharmacie, on nous dit « Ah, mettez bien votre insuline au frais ». Bon, sachez que en fait l'insuline, elle peut très bien résister et être efficace à une température ambiante jusqu'à 3 mois. L'important, c'est que elle ne doit pas subir de température extrême. C'est-à-dire que je peux garder mon insuline sur moi ou dans ma chambre d'hôtel tant que il ne fait pas en dessous de 4 degrés dans ce lieu qu'on aura choisi pour la stocker, ou qu'il ne fait pas plus de 30 degrés. Et qu'il n'y a pas de variation de température tout au long de la journée. Ce qui pourrait impacter l'efficacité de l'insuline, ce serait soit des températures trop froides, trop chaudes, ou que dans la même journée, il y ait à la fois du chaud, du très froid et du très chaud. Si on évite toutes ces circonstances-là, on peut très bien voyager avec son insuline sans la mettre au frigo pendant 3 mois et l'avoir sur nous, dans notre sac à dos ou dans l'auberge ou l'hôtel dans lequel on logera. Pour cette raison, tant qu'on voyage moins de 3 mois, on peut tout à fait voyager sans avoir un frigo portatif avec soi. Après, au-delà des 3 mois, évidemment, vu que l'insuline marchera de moins en moins, sera de moins en moins efficace, et là, pour le coup, ça peut être dangereux pour notre traitement, il faut veiller à renouveler l'insuline tous les 3 mois, avoir des nouveaux apports d'insuline pour, par exemple, des voyages qui seraient plus longs. Peu importe mon voyage, que ce soit une semaine, 2 semaines, 1 mois ou 6 mois, je prends toujours 3 plans, pense toujours plan A, plan B, plan C, pour mon traitement. C'est-à-dire que peu importe où je voyage dans le monde, je suis quasiment certaine que le système de santé sera moins bon qu'en France. Parce que on a la chance d'avoir un des meilleurs systèmes de santé au monde. Qui plus est, on a l'accès à l'insuline gratuite de manière presque à volonté. Et en plus, on a accès aux meilleures pompes à insuline, aux dernières technologies, etc. Donc je sais bien que peu importe où je voyagerai, alors certes, je trouverai de l'insuline, parce que Dieu merci, l'insuline existe partout, mais je trouverai peut-être pas forcément une pièce de rechange pour ma pompe ou le bon chargeur de batterie, ou le bon consommable qui correspond à ma pompe. Donc, j'essaye toujours d'être autonome sur 3 plans. En gros, j'essaye d'avoir un maximum de choses sur moi pour ne pas dépendre du système de santé du pays dans lequel je vais voyager, sauf en cas d'extrême urgence. Donc, en gros, mon plan A, plan B, plan C, c'est très simple. Plan A, je prends tout mon matériel pour 100% du séjour. Donc, typiquement, moi, je suis sous pompe à insuline. Donc, je vais prendre de l'insuline pour mes 3 semaines de vacances, ma pompe à insuline et tous les consommables pour les 3 semaines, mes capteurs et changement de capteurs, les chargeurs, piles, etc. Mon plan B, ça va être que je vais prendre 20% de mon traitement en plus sur moi. En cas de que ma pompe, par exemple, ait un problème technique ou que je m'arrache mon cathéter plusieurs fois dans le séjour parce que j'ai fait des activités sportives un peu différentes. Donc, je vais prendre 20% de plus de tout ça. Ça implique une deuxième pompe à insuline, si je peux le négocier auprès de mon prestataire. En général, ils disent oui. Ça implique évidemment des consommables, 20% de consommables en plus, 20% de capteurs de glycémie en plus. Et je prends à ce moment-là un lecteur de glycémie classique parce que en cas de défaillance de mon capteur, il faut que je puisse avoir accès à mes glycémies. Donc je prends tout ce qu'il faut pour faire mes dextro, que ce soit dextro classique ou dextro qui permet de détecter si je fais de la cétone. Je vais prendre évidemment 20% d'insuline en plus. Et ma petite technique, c'est que je prends toute mon insuline sous stylo. Pourquoi ? Et là vient le plan C. Parce que si, par exemple, j'ai eu un problème avec ma pompe insuline, j'ai arraché tous mes capteurs, j'ai arraché tous mes cathéters, enfin, c'est la catastrophe, il faut que je passe à mon plan C, c'est mon schéma de remplacement, donc c'est-à-dire je vais passer sous multi-injection. Et dans ce cas-là, puisque j'ai pris toute mon insuline en stylo, eh bien, je n'ai pas de problème de insuline qui est sous cartouche et que je ne peux pas, entre guillemets, injecter dans mon corps sans avoir la pompe. Donc, je prends toute mon insuline en stylo pour passer en schéma de remplacement si besoin. Et ce schéma de remplacement qui va donc comporter de la lentus aussi, puisque l'insuline de la pompe, c'est que de la rapide, donc je prends de la lentus. Je prends des aiguilles pour m'injecter et tout ça, ça va représenter 50% du traitement du séjour. Parce que j'estime que potentiellement, sur un séjour de X jours, si j'ai des pannes ou des problèmes avec ma pompe, avoir 50% de mon séjour en schéma de remplacement me permettra de subvenir à mes besoins jusqu'au jour de retour en France ou pendant une période suffisamment grande pour que je trouve un plan D en cas d'autres problèmes. Et donc pour moi, le plan D, c'est se ravitailler sur place avec les moyens de santé qu'il y a sur place. Et là, on se rassure tous, c'est qu'il y a de l'insuline de partout et il y a des aiguilles de partout et il y a des lecteurs de glycémie partout dans le monde. C'est juste que, évidemment, ce sera payant. Donc, une chose que je dis souvent, c'est si je prends mon plan A, mon plan B, mon plan C sur moi, déjà, je suis super sécure parce que j'ai quand même pris 3 plans de secours. Et si jamais je suis obligée de trouver de l'insuline sur place, bon, je me rassure, il existe de l'insuline partout dans le monde, il faudra juste payer, quoi. Et bien sûr, je pourrais peut-être pas être sous pompe, je serais peut-être pas aussi équilibrée que si j'avais été sous pompe, mais bon. En tout cas, je rentre pas en France en urgence, je me mets pas en danger et sous multi-injection, je peux très bien gérer mon diabète. Il y a aussi d'autres choses que je prends en plus qui sont essentielles, c'est pour les hypoglycémies sévères. Je vais toujours prendre soit un Baqsimi, soit un glucagon sur moi. Et bien sûr, avertir si je voyage avec une personne, lui expliquer comment ça fonctionne en cas de besoin. Et j'ai toujours sur moi, dans mon sac à dos, dans mon sac de voyage, plusieurs sucrages solides. Et pourquoi solides? Parce que à l'aéroport, par exemple, on nous enlève les jus de fruits et tout ce qui est resucrage liquide. Donc, je pars toujours en vacances avec plein de barres de céréales dans mon sac, des gâteaux. Je prends aussi des Gluquipo. Je trouve que c'est des petites pastilles de sucre qui sont fabriquées en France et qui sont top pour resucrer rapidement une hypoglycémie. En plus, ça prend pas beaucoup de place, donc voilà. Et je voyage toujours avec tout mon matos sur moi. C'est-à-dire que même si j'ai une valise en soute avec plein d'espace dedans, je vais toujours avoir en fait mon matériel dans un sac à dos qui sera sur moi et que je ne lâcherai jamais, puisque ce sac à dos, c'est un peu ma bouée de sauvetage, mon sac de survie. Et ça me permet de prendre l'avion avec, le train, le bus, tous les moyens de transport possibles en ayant mon matériel sur moi. Donc, pas de stress, qu'il soit perdu, qu'il soit volé ou qu'il lui arrive une mésaventure au cours d'un transport. Après, je vous vois déjà venir. Oh là là, mais ça prend beaucoup de place, tout ce matériel. Comment on fait pour voyager avec autant? Moi, j'ai toujours des petites techniques. C'est qu'en fait, je vais enlever tous les emballages plastiques et carton de tout mon matériel, sauf ce qui est emballage stérilisé, évidemment. Mais je vais essayer en fait de enlever le maximum de poids et d'espace parce que en général, le matériel est quand même bien emballé. Et je vais tout organiser dans des pochettes zip. Et du coup, vous ferez laisser chez vous. Et on peut faire tenir 3 mois de matériel diabète dans un sac à dos en enlevant un maximum d'emballage non stérilisé. Ensuite, il y a la question des documents à avoir sur soi. Parce que certes, on peut voyager avec son matériel, mais il faut toujours avoir des documents qui valident en fait et qui autorisent de voyager avec eux. Donc, je vais vous donner la petite liste. Quand je voyage, j'ai toujours plusieurs choses sur moi. D'abord, une ordonnance de mon endocrinologue, ordonnance classique, que j'utilise pour la pharmacie en général. Et si possible, il faudra en avoir une en français et en anglais. Parce que si jamais vous devez prendre de l'insuline dans un pays à l'étranger, c'est toujours mieux d'avoir une ordonnance en anglais. Certains pays vont vous demander d'aller chez un médecin local pour vous faire prescrire une insuline via le système de santé local. Auquel cas, c'est toujours bien d'avoir votre ordonnance et votre endocrino en anglais. Ça permettra toujours de faciliter la passation d'informations avec le médecin local. Ensuite, à part l'ordonnance, si vous avez une pompe à insuline, il faut avoir un certificat de douane qui est établi par votre prestataire de santé. Ce certificat, il doit être en français et en anglais. Et en fait, il doit mentionner le numéro de série de votre pompe insuline, votre pompe insuline que vous avez sur vous, et aussi votre deuxième pompe insuline si vous en avez une deuxième de rechange. En général, l'endocrinologue fait aussi un certificat pour les douanes en français et en anglais. Et ce certificat, il stipule uniquement que vous devez garder votre matériel sur vous et que donc il doit monter à bord de l'avion avec vous. Ça peut être intéressant auprès de certaines compagnies aériennes qui, par exemple, souhaitent mettre votre sac à dos ou votre valise cabine en soute. Et ben, à ce moment-là, vous leur dites, écoutez, j'ai du matériel médical, voici le certificat du médecin, je ne peux pas mettre mon bagage cabine en soute, il faut que je le garde avec moi. Ça peut servir dans ces cas-là. Et ensuite, moi, quand je pars en voyage, je pars toujours avec une assurance en plus, donc une assurance voyage. En fonction du pays dans lequel je vais aller, bah, j'appelle des assurances voyage qui sont très connues et classiques, qu'on peut trouver sur le net. Il y a Allianz Travel, Chapka Assurance, plusieurs assurances existent. Et en fonction du pays et de la durée du séjour, bah, voilà, on peut avoir à dépenser une trentaine d'euros ou une cinquantaine d'euros. Mais ça permet d'avoir nos frais médicaux pris en charge en cas de pépins de santé à l'étranger. Donc, selon les pays, ça peut être primordial parce que, par exemple, aux États-Unis, la santé coûte extrêmement cher. Donc, vaut mieux payer une assurance 50 euros au cas où plutôt que d'avoir à payer les frais réels d'une hospitalisation aux États-Unis qui peut s'élever à plus de 1 500 $ par jour. Donc, voilà. Je pense que ça peut déjà aider à dissuader pas mal de monde de pas prendre l'assurance. Et ensuite, on a la chance en Europe d'avoir la sécurité sociale, notre sécurité sociale partout en Europe. Donc, on peut se faire délivrer une carte d'assurance maladie européenne, ce qui permet, en cas de pépins de santé, d'être pris en charge tout de suite dans un pays européen avec votre numéro de sécurité sociale français. Et donc, non seulement les personnes qui s'occuperont de vous auront accès à tout votre dossier médical et pourront vous venir en aide plus rapidement, mais en plus de ça, les frais seront pris en charge par la Sécu en France. La carte d'assurance maladie, ça se fait en 2 clics sur Internet et c'est gratuit, carte d'assurance maladie européenne. Donc, je conseille vraiment de la faire quand vous partez en voyage en Espagne, en Italie, même pour un week-end, c'est toujours bon à avoir sur soi. En cas de voyage un peu plus long et même carrément d'expatriation, si vous comptez aller vivre à l'étranger, vous pouvez souscrire à la CFE, c'est la Caisse des Français à l'étranger. Et en fait, c'est comme une extension de la CPAM, donc c'est une extension de notre sécurité sociale, mais à l'étranger. Du coup, évidemment, elle est payante, elle a quand même un certain coût. Si vous vous faites expatrier avec votre entreprise, vous pouvez par exemple vous la faire financer par votre entreprise. Et l'avantage de la CFE, c'est qu'en fait, elle va déjà, comme c'est une extension de la sécurité sociale, elle prend en compte le fait que vous êtes en ALD, en affection longue durée, que vous avez un diabète de type 1 et que donc vous avez des frais liés à ce diabète qui sont quotidiens. Et donc, selon le pays dans lequel vous vous expatriez, la CFE va prendre en charge tous vos frais liés au diabète à la même hauteur qu'en France. Donc, vous pourrez aller voir un endocrinologue, j'en sais rien, aux États-Unis, par exemple, puisque je pense aux États-Unis, et vous allez payer que le prix au-dessus de ce que l'endocrinologue vous coûte en France. En fait, tous vos frais vont être remboursés par la Sécurité sociale française. Et s'il y a un plus, c'est pour votre pomme, mais au moins, vous avez déjà une base de remboursement Sécu qui est énorme, parce qu'il faut le dire, la base de remboursement Sécu en France est très bonne. Et vous pouvez donc avoir accès à des soins de qualité dans d'autres pays. Et la CFE, c'est pas uniquement pour les expatriés. Moi, par exemple, quand j'ai fait mon tour du monde, j'ai souscrit à la CFE pour les 9 mois. Et donc, je savais que quoi qu'il arrive dans mon voyage, et peu importe le pays où j'étais, j'avais communiqué à la CFE toutes mes dates, des pays dans lesquels je serais. Enfin, ils avaient toutes les infos de mon voyage. Eh bien, si j'avais un pépin de santé avec mon diabète dans n'importe quel pays, la CFE pouvait couvrir une partie de mes soins. Voilà pour toute la partie administrative. Il faut savoir aussi que si on part plus de 3 mois, ça peut être un voyage ou pareil, une expatriation, on peut faire une demande de délivrance exceptionnelle de matériel médical à l'assurance maladie. Et l'assurance maladie peut nous délivrer jusqu'à 6 mois d'insuline et de traitement, ce qui permet de partir avec tout son matos de 6 mois pour un long voyage ou pour démarrer une nouvelle vie ailleurs et avoir 6 mois devant soi pour se préparer à organiser toute la partie médicale à l'étranger.
Excuse-moi.
Ouais.
Je te coupe. Donc la pharmacie te délivre 6 mois de traitement.
Exactement. Et en fait, pour ça, il faut bien s'y prendre à l'avance. En fait, d'abord, il faut demander à l'endocrinologue, enfin notre endocrino, notre diabéto, qu'il fasse une ordonnance classique avec écrit en bas de l'ordonnance délivrer 6 mois de matériel. Où ils ont une phrase type qu'ils doivent noter sur l'ordonnance. Ensuite, nous, sur le site de la CPAM, on va télécharger un formulaire et on va remplir un formulaire de demande de délivrance exceptionnelle de traitement pour une durée de 6 mois. On va envoyer notre ordonnance et ce formulaire à la CPAM de notre département. Ensuite, en général, alors c'est écrit qu'ils mettent 15 jours à répondre. Moi, j'avais attendu un mois à l'époque, mais c'était il y a plusieurs années, donc peut-être qu'aujourd'hui, ça se fait plus rapidement. Dans tous les cas, je conseille de le faire le plus tôt possible. En règle générale, l'assurance maladie accepte cette délivrance exceptionnelle. Si vous l'avez jamais demandé, ce sera accepté de fait. Je crois que c'est au bout de 2-3 demandes que là, l'assurance maladie commence à checker si elle refuse ou non, parce que évidemment, on peut pas non plus trop abuser du système. Mais si c'est une première, voire une deuxième demande, tant qu'il y a assez d'années de décalage entre les deux, c'est tout à fait, enfin, c'est accepté facilement. Et une fois que vous recevez de la part de l'assurance maladie cette attestation de confirmation, là, vous allez à votre pharmacie et ils doivent, si leurs stocks sont bien complets, ils doivent vous délivrer 6 mois d'un coup. Si jamais ils ont pas de stock, c'est pour ça qu'il faut bien le prévoir en amont. Alors, la pharmacie doit s'organiser pour pouvoir vous délivrer les 6 mois. Et c'est pareil pour le prestataire de santé, pour tout ce qui est consommable de pompe et, par exemple, capteur de Dexcom. Il doit pouvoir vous livrer 6 mois de consommable grâce à cette attestation.
Ça me fait penser pour les étudiants qui partent étudier à l'étranger.
Ça peut être pour ça, ça peut être pour un voyage. Moi, typiquement, quand je suis partie en Erasmus en Espagne, j'avais fait une demande. Donc, je suis partie avec 6 mois de matériel. Et pareil, quand j'ai fait mon tour du monde, je suis partie avec 6 mois de matériel grâce à cette demande de délivrance exceptionnelle. Donc, en fait, ça fait partie des accords de la sécurité sociale pour les personnes qui ont des ALD. Elles peuvent de temps en temps demander une délivrance exceptionnelle pour n'importe quelle raison. En réalité, il suffit juste de justifier d'un voyage ou d'un départ à l'étranger pour une durée de 6 mois et la CPAM accepte.
Et justement, tu parlais de ton voyage du tour du monde. Comment tu as fait pour récupérer le traitement au bout de 6 mois, par exemple?
C'était une grosse organisation. En fait, comme je disais tout à l'heure, il y a toujours cette question des 3 mois de l'insuline. Et puis la question du poids et de la place que prend le matériel. Donc moi, j'étais partie avec 3 mois de matériel sur moi. Ensuite, il me fallait encore tenir 6 mois. Donc en fait, ce que j'ai fait à l'époque, c'est que j'ai envoyé tout mon matériel d'avance dans les endroits où je savais que j'allais atterrir. J'ai fait ça en 3 étapes. La première étape, ça a été, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai une amie qui m'a rejoint pendant le circuit du Tour du Monde. Donc en fait, je lui avais déjà envoyé d'avance, parce qu'elle n'habitait pas en France, je lui avais envoyé par DHL 1 mois de matériel, de l'insuline, du matos de pompe et mes bandelettes dextro, parce qu'il n'y avait pas encore de capteur à l'époque. Je l'avais envoyé dans une boîte 1 mois de matos et puis elle l'avait mis dans sa valise et en fait elle m'avait rejoint avec 1 mois de matériel en Thaïlande. Et ensuite pour les 2 autres ravitaillements, en fait j'ai eu pas mal de chance, mais c'est aussi parce que j'ai beaucoup beaucoup prémédité et préorganisé ce voyage. J'avais deux connaissances qui partaient en Amérique latine juste avant mon tour du monde. Une connaissance qui partait en Argentine et une autre qui partait en Colombie. Et en fait, bah, pareil, je m'étais organisée pour avoir mes 6 mois de matos à l'avance. Et en fait, j'avais donné à chacune de ces personnes 2 mois de matériel avec l'insuline. Elles ont voyagé respectivement en Argentine, en Colombie. Et elles ont laissé dans le pays, dans chacun de ces pays, à des personnes de confiance que je connaissais ou qu'elles connaissaient, mon matériel. Et du coup, bah, en fait, quand j'ai pris mon premier avion pour les 9 mois de périple, tout mon matériel était déjà dispatché dans le monde entier. J'avais mes 3 mois sur moi. Pour le 4e mois, j'avais une amie qui me rejoignait avec du matos qu'elle avait déjà reçu chez elle. Et ensuite, 2 mois plus tard, je retrouvais du matériel en Argentine. Et 2 mois plus tard, enfin 1 mois et demi plus tard, du matériel en Colombie. Et ainsi, j'ai pu suivre mon traitement en toute confiance. Et en fait, ce que je recommande aux personnes que je rencontre parfois sur les réseaux et qui me demandent comment j'ai fait, et en fait, je leur dis, parlez à toutes les personnes que vous connaissez de votre projet. Parlez de votre voyage, si c'est un tour du monde ou si c'est, j'en sais rien, 6 mois en Amérique latine ou 6 mois en Asie. Parlez-en au plus à tout votre réseau professionnel, amical, familial, et demandez à toutes ces personnes s'ils connaissent par hasard quelqu'un qui habite dans ces pays-là. Et en fait, très rapidement, on va se rendre compte qu'on connaît toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui est de confiance et qui habite dans un de ces pays. Et donc, à partir du moment où on a le point de contact, on peut soit envoyer notre matériel par DHL ou UPS, faire un envoi sécurisé avec une assurance et envoyer notre matériel à cette personne de confiance qui pourra nous le garder jusqu'à ce qu'on arrive sur place. Soit on peut demander à un proche de nous rejoindre pendant notre voyage, tout simplement un cousin, un ami, un papa, une maman, un frère, une sœur qui, au bout de X mois, pourrait nous rejoindre pendant 2 semaines et apporter du matériel. Et aussi, grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, pourquoi pas trouver un diabétique de type 1 grâce au réseau dans tel pays, établir une relation de confiance avec cette personne et puis lui envoyer du matériel pour le retrouver une fois arrivé sur place. On peut aussi contacter des associations locales. Et du coup, au final, quand on met bout à bout toutes ces solutions, une fois qu'on sait où on va et à quelle date on va y aller, qu'on a eu notre délivrance de matos et qu'on peut, entre guillemets, être libre de l'envoyer où on veut, on peut imaginer un ravitaillement petit à petit tout au long du voyage en fonction des personnes qu'on aura rencontrées en amont et préparées à ce qu'elles nous aident sur ce chemin-là.
C'est quand même une sacrée organisation.
Ah oui, je dis toujours, j'ai mis 1 an à organiser le tour du monde. Vraiment 1 an complet, desquels 6 mois ont été entièrement dédiés au diabète. Mais pour ne pas apeurer ceux qui nous écoutent et qui voudraient se lancer dans ce voyage-là, moi j'ai vraiment eu à cœur de tout organiser en amont. J'ai pris 0 risque. Vous m'avez entendu, j'ai trouvé des personnes qui partaient en voyage avant moi dans les pays où moi je serais pour leur donner du matériel. Enfin, j'ai vraiment fait une organisation titanesque pour peut-être une autre personne pourrait partir avec l'esprit beaucoup plus tranquille en se disant moi c'est simple, je pars avec 3 mois sur moi et puis après tous les 3 mois je demande à un proche de me rejoindre en voyage, il m'amène mon matos et voilà. Enfin, chacun peut organiser son voyage comme il l'entend, tout en sachant que ce qu'il faut entendre, c'est que c'est possible. Peu importe la manière dont on veut s'organiser et jusqu'où on veut contrôler les moindres détails, dans tous les cas, c'est tout à fait possible de voyager avec du matériel, avec une pompe à insuline et tout ce que ça implique en termes de gestion. Après, si on est sous multi-injection, qu'on a juste des stylos d'insuline et des aiguilles, alors là, c'est encore plus facile. Je veux dire, il y a quasiment pas de matos. On peut presque prendre 6 mois de matos sur soi sans problème. Et puis, selon les pays dans lesquels on voyage aussi, on peut trouver notre traitement sur place. Donc, il y a toujours des solutions.
Puis j'ai envie de dire que quand tu organises ton voyage, tu es déjà dans le voyage. Je veux dire, l'organisation fait partie du voyage. Donc,
exactement.
Voilà quoi, c'est pas.
C'est vrai.
C'est pas un désavantage, quoi. Le fait d'y penser, enfin, voilà, tu dois être dans l'excitation de préparer ton voyage.
Ah, ben oui, clairement, tu te projettes. Et puis, après, ça dépend des personnalités, mais bah, c'est vrai qu'avec un diabète, on peut être plus ou moins anxieux à l'idée de voyager. Donc, le fait d'anticiper et de préparer tout ça, par exemple, pour moi, c'était très réconfortant, c'était très rassurant. Quand j'ai pris mon avion pour New Delhi, je me souviens, le 8 janvier 2017, la seule chose à laquelle je pensais à ce moment-là, c'était je suis prête à toute éventualité et je suis rassurée, mon matos s'est déjà dispersé partout dans le monde. Maintenant, j'ai plus qu'à kiffer mon voyage parce que ça y est, en fait, j'ai tout organisé niveau diabète. Et c'est ça, moi, qui me faisait du bien, c'était de me dire bah, je vais pouvoir vivre mon expérience à fond. Limite sans même réfléchir à la partie matos parce que ça y est, je l'ai déjà organisé. Donc pour moi, c'était un énorme cadeau que je m'étais fait à moi-même de tout organiser d'avance parce que j'ai vécu mon voyage en toute tranquillité par rapport à mon traitement. Je savais que je l'avais et je savais que quoi qu'il arrive, je serais en bonne santé.
Voilà, t'avais juste à kiffer et à faire attention.
Ouais.
À l'alimentation peut-être et à gérer la glycémie avec les efforts physiques. Enfin, ça, tu l'aurais fait quand même en étant chez toi. Donc, je veux dire, après, voilà quoi. Après, c'est la vie de tous les jours.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. Après, c'est notre vie de tous les jours. Alors oui, il y a plus d'imprévus, évidemment, parce que le voyage est fait d'imprévus. Il y a des activités physiques sur lesquelles on se connaît moins. On ne sait pas trop comment notre glycémie va réagir à tel ou tel type d'activité physique. Il y a l'alimentation qui change beaucoup aussi. Mais au final, être en voyage, c'est un petit peu plus inconfortable, si je puis dire, pour la gestion. Mais la gestion reste la même. Tu sais, parfois, même dans une routine de boulot où on se lève tous les jours à la même heure, on mange tous les jours à la même heure, parfois même on mange la même chose, et ben même dans des routines, notre diabète fait un peu ce qu'il veut. Des fois, on fait des hyper incompréhensibles, des hypos qui n'ont pas lieu d'être. Et en fait, la gestion reste la même. C'est soit de l'insuline, soit du resucrage. Et les impondérables sont aussi là dans une routine. Dans le voyage, ils sont plus souvent présents, certes. La gestion reste la même. Mais par contre, le gros point positif, c'est que tu vis des expériences qui vont au-delà du diabète, qui sont splendides, qui t'enrichissent humainement et qui font que le voyage vaut la peine. En fait, le voyage aura toujours le dessus. Le souvenir du voyage aura toujours le dessus sur les petits inconvénients que notre diabète peut nous faire vivre à l'instant T.
Puis on est moins tendu, on est plus cool. Donc déjà, il y a peut-être, alors il y a un stress, mais pas le même que quand on bosse, quand on est dans les embouteillages ou quand on est dans un boulot bof bof. Enfin voilà quoi. Là, en voyage, enfin l'esprit il est ouvert quoi.
Clairement. Et d'ailleurs, souvent en voyage, après, bon, chaque organisme est différent, mais moi, ça m'arrive de baisser drastiquement mes doses d'insuline parce que, bah, bon, de fait, on est plus dans l'activité physique parce qu'on marche toute la journée, on découvre des lieux, donc on brûle un peu de sucre avec ça. Aussi, je pense que le fait de pas être dans une routine stressante, bah, ça fait aussi, ça fait baisser les besoins d'insuline. Et du coup, en règle générale, en vacances, je fais attention à m'injecter moins parce que j'ai plus tendance à faire des hypos.
Oui, bon, il faut reprendre la gestion. Puis même quand on est en vacances, on a des espèces de routines qui reviennent et ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne. Il faut se caler.
Ouais.
Par exemple, par rapport au décalage horaire, tu as des astuces à ce niveau-là?
Oui, alors après, ce qui marche pour moi marchera peut-être pas pour tout le monde. Et du coup, là, je mets un petit warning, c'est que faut toujours valider avec votre endocrino si vous partez à l'étranger qui a du décalage horaire, de bien valider comment vous allez adapter le traitement aux premières 48 heures. Moi, je suis sous pompe, donc ça facilite grandement les choses. Ce que je fais, c'est que le jour du voyage, en fait, je reste sur mon horaire français. Puisque mon organisme est en horaire français, Et en fait, jusqu'à ce que je n'aille pas me coucher dans l'horaire du pays en question dans lequel j'arrive, je vais garder dans ma pompe à insuline l'horaire français. C'est-à-dire que, par exemple, typiquement France-Guadeloupe, quand je prends l'avion en France en milieu d'après-midi, j'arrive en Guadeloupe en milieu d'après-midi. Mais en réalité, pour mon organisme, il est déjà 20h-21h. Je vais pas changer mon horaire de pompe à insuline dès mon atterrissage en Guadeloupe. Parce que pour mon corps, il est 20h-21h. Donc, je vais laisser ma pompe à insuline à l'horaire français jusqu'à ce que j'aille me coucher heure Guadeloupe. Et là, quand je vais me coucher heure Guadeloupe, c'est-à-dire 6h plus tard, il sera déjà 3-4h du matin dans mon organisme, là, je mettrai le 21h heure Guadeloupe. Et en fait, c'est au cours de ma première nuit que je fais le changement d'horaire sur la pompe. Je trouve que c'est ce qui marche le mieux pour mon organisme. Ensuite, quand on est sous stylo, c'est un peu plus complexe parce que du coup, il faut jouer sur les heures de la lentus. Là, moi, ce que je faisais quand j'étais sous stylo, c'est que je gardais à peu près cette même idée, c'est-à-dire que la lentus, vu qu'elle dure 24 heures, je me la suis injectée la veille de prendre l'avion à 21 heures. Bon, je prends mon avion le lendemain, j'atterris dans une zone à un fuseau horaire différent. En fait, il faut que je reste dans mon horaire de mon organisme qui a l'horaire français. Donc, dès qu'il sera 21h en France, même si je suis à l'étranger, je vais pas me mettre une nouvelle dose complète d'insuline lente. Je vais diviser ma dose de lente en 24, puisque une injection d'insuline lente dure 24 heures. Je la divise par 24, ce qui me fait un taux d'unité par heure. Et typiquement, s'il est 15h quand j'atterris en Guadeloupe et que je suis sous lentus, il est 15h en Guadeloupe, il est 21h en France. OK. Pour mon organisme, il me faut la lentus à cette heure-là, puisque les 24 heures précédentes se sont écoulées. Alors, je ne vais pas m'injecter ma dose totale de lentus. Je vais m'injecter uniquement la dose dont j'ai besoin de 15h jusqu'à 21h heure locale. Donc 15-21, il y a 6 heures. Donc, si ma dose totale, je la divise par 24 et je la remultiplie par 6, je vais avoir mon besoin d'insuline lente sur 6 heures. Je vais m'injecter que cette petite dose, ça va être pas grand-chose. Mais ça va être suffisant pour me permettre de tenir jusqu'à 21h heure locale. Et quand arrivera 21h heure locale, là, je m'injecte pas la totalité de ma dose, j'injecte pas les 24 heures. Mais je vais injecter une vingtaine d'heures. Pourquoi ? Jusqu'au lendemain où je vais reprendre à toutes les 21h heure locale ma dose complète. Pourquoi là, sur cette première dose, je mets que 20 heures au lieu de 24 heures ? Parce que il risque d'y avoir un chevauchement entre la dose que j'ai faite à 15 heures et celle de 21 heures. Et donc, si je fais une dose à 15 heures de 6 heures de lentus et que derrière, je me remets 24 heures, c'est clair que je vais faire des hypos. Enfin, mon corps va chevaucher les deux insulines et je vais passer la journée suivante en hypo et ça va être l'enfer. Donc, je diminue un peu cette première dose journalière à 21h et ensuite, le lendemain, 24h après, là, mon corps aura assimilé toute la lente de la veille. Là, je vais pouvoir reprendre ma dose habituelle pour 24h. Après, ça c'est mon expérience qui m'a amené à faire ce type de choix-là. Potentiellement, l'endocrinologue ou le diabéto que vous voyez, il vous donnera d'autres astuces. Après, comme toujours, moi je dis, il faut tester, il faut choisir ce qui nous convient le mieux.
Toutes ces informations, elles sont vraiment très très intéressantes pour les personnes, pour tout le monde déjà. Et en plus, pour les personnes qui projettent de faire un voyage, hein, petit ou grand. Hein.
Oui, et puis il y a un truc aussi que je recommande fortement de faire, si vous ne l'avez pas fait, c'est de faire un stage en insulinothérapie fonctionnelle avant de partir en voyage. Parce que, en fait, c'est ce qui va permettre de mieux s'adapter et de mieux gérer ses glycémies avec des repas qu'on ne connaît pas. Souvent, la plus grande inquiétude quand on est diabétique et qu'on va à l'étranger, après la question de comment je transporte mon insuline et mon matériel, c'est comment je vais gérer mes glycémies avec des repas que je connais pas, notamment dans des pays asiatiques où c'est vraiment une nourriture qui est complètement différente de la nôtre. Comment je compte mes glucides alors que je vais pas avoir mes aliments avec moi, que je vais tout faire de tête. Du coup, moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est de faire l'insulinothérapie fonctionnelle. J'ai fait un premier stage très rapidement à 18 ans dans la première année de mon diabète. Et j'ai fait un deuxième stage quelques années après pour remettre un peu les infos à jour dans ma tête. Et c'est vrai que avec l'IF, en fait, ça nous apprend tellement d'informations nutritionnelles et ça remplit notre cerveau de tellement de données que du coup, même quand on est à l'étranger et qu'on connaît pas bien les aliments, on a quand même les billes, la base de données en fait cérébrale pour réussir à calculer nos glucides plus ou moins justement. Après, ce que je dis souvent, c'est il faut pas se mettre la pression. Quand on est en vacances, on est aussi là pour lâcher prise, on est aussi là pour passer un bon moment. On va pas avoir des courbes de glycémie parfaites et c'est OK. On est là pour kiffer. Bon, ça veut pas dire qu'il faut se mettre en danger. Mais si les courbes sont moins lisses que d'habitude, il y a plus, on touche un peu plus des extrêmes de l'hyper et de l'hypo pendant deux semaines, c'est pas grave. L'important, c'est aussi de s'amuser, de passer un bon moment, d'oublier un petit peu aussi qu'on a cette maladie, de se lâcher un peu la grappe. Et puis, si je sais pas bien le nombre de glucides que j'ai dans mon plat, moi, souvent, ce que je fais pour éviter de... Moi, ce qui me fait peur, surtout, c'est les hypos en vacances. Parce que une hyper, c'est plutôt simple à gérer. Tu te remets une dose d'insuline et c'est bon. Alors qu'une hypo, ça peut vraiment te, selon l'activité que tu as prévue ce jour-là, ça peut un peu plus t'embêter. Donc, en général, quand j'ai une assiette face à moi, je sais pas trop combien m'injecter. Bon, j'estime un nombre de glucides un peu à l'œil. Et puis, je connais mon ratio. Par exemple, on va dire la base, une unité d'insuline pour 10 grammes de glucides. Bon, si j'ai face à moi un repas où j'estime qu'il y a 40 grammes de glucides, je devrais normalement m'injecter 4 unités. En vacances, souvent, j'injecte 3/4 de ma dose normale. Donc, je vais m'injecter, au lieu de 4, je vais m'injecter 3, voire 2,5, si j'ai une pompe que je peux doser. Pourquoi? Parce que je préfère être, c'est ma gestion à moi, je préfère être en hyper dans 1h30 et faire une correction. Mais au moins, j'ai pas, on va dire que j'ai pas eu à subir une hypo pendant une activité physique, par exemple. Et ça me permet de mieux lisser. Je préfère mettre mon insuline en coup par coup, en fonction de ma glycémie, plutôt que mettre une grosse dose d'un coup, de m'être potentiellement trompée et de me retrouver en hypo dans une situation où j'en sais rien, je suis en rando. Finalement, j'ai que 3 resucrages sur moi parce que j'ai déjà mangé mon resucrage de la veille. Enfin, et que du coup, je me retrouve dans une situation où l'hypoglycémie pourrait être dangereuse. Donc souvent, je recommande de faire l'IF et aussi, si vous êtes à l'aise avec l'idée, de sous-doser un petit peu l'insuline. Comme ça, vous pouvez mieux gérer votre activité physique au cours de la journée.
Surtout que l'activité physique, elle va faire tomber la glycémie.
Donc, du coup, exactement.
Voilà quoi. Du coup,
c'est ça.
Pourrais-tu nous donner une anecdote, un bon souvenir ou un mauvais souvenir, enfin quelque chose, un mauvais souvenir entre guillemets, quoi, quelque chose qui t'est arrivé, qui n'avait pas prévu et qui en fait, maintenant, tu y penses, avec le recul, tout va bien, quoi.
Ouais, moi, mon anecdote, c'est vraiment mon souvenir à la fois le plus beau et le plus puissant du tour du monde. C'est quand j'ai monté le Machu Picchu, donc ça se trouve au Pérou. Vous connaissez peut-être, c'est une des 7 merveilles du monde et c'est une petite montagne à gravir qui est quand même assez assez pentue et qui a toute une histoire magnifique derrière des Incas. Et en fait, le Machu Picchu, ça reste quelque chose de une activité touristique classique pour les gens lambda, mais pas pour une personne avec un diabète de type 1, puisque pour le coup, moi, j'ai monté tout le Machu Picchu en hypoglycémie, et ça a été une véritable ascension de l'enfer, et en même temps un dépassement de soi incroyable qui a été assez marquant pour moi parce que dans ma gestion du diabète et dans ma confiance en mon corps et en ma maladie du coup, il y a eu un avant et un après Machu Picchu. Parce que pour la petite histoire, bah, comme je faisais le tour du monde un peu en mode route avec pas beaucoup de sous, bon, il y a plusieurs manières de gravir le Machu Picchu, mais en tout cas, la manière la moins chère, c'était de se réveiller à 3h du matin pour aller prendre un bus qui menait à, on va dire, une première... qui menait au départ, en fait, de la rando. Et la rando, donc, démarre autour de 5h30 du matin. Et en fait, je me prépare pour faire ma rando... Dans mon sac, je mets plein de resucrage. Et comme la veille, on avait fait des sandwichs, et ben je me dis, tiens, pourquoi pas, ce sera pas perdu. Je mets le pain entier. Tu sais, les carrés de sandwich, les pains carrés, quoi, les pains de sandwich. Je me mets un paquet entier de pain de sandwich dans mon sac à dos en me disant, au cas où. Voilà. Et puis, réveil très, très tôt dans la nuit. Donc, 2h30 du matin, levé pour aller prendre le bus à 3h du matin. Donc déjà, ça fait une belle, un beau choc pour le corps. Ensuite, le temps de prendre le bus, d'arriver sur place, il est 5h30. J'avais déjà fait des hippos dans le bus. Donc, j'avais déjà commencé à manger mes resucrages. Et puis, l'ascension démarre. C'est pas une ascension extrêmement longue parce que ça dure 45 minutes à une heure. Mais par contre, elle est très, très pentue. Donc, elle demande un gros effort physique. Et en fait, à l'époque, j'étais sous dextro. Donc, il n'y avait pas de... Enfin, les capteurs de glycémie n'étaient pas encore remboursés. Donc, c'était très rare d'en avoir. Et je démarre mon ascension à 0,80. Et puis là, je me dis, merde, je connais mon corps, je sais comment il brûle en cas d'effort physique. Et en fait, je démarre l'ascension avec un bout de pain dans la bouche, quoi. Je marche, en même temps que je marche, je mange. Et en fait, toutes les 10 minutes, je check ma glycémie. Je me sens, vous imaginez, horriblement mal. Je transpire tous les pores de mon corps tellement... tu sais, quand t'es en hypo, tu commences à transpirer plus que la normale. Je me sens faible, j'ai la tête qui tourne. Et en fait, toutes les 10 minutes, je fais des dextros. Et en fait, je passe une heure d'ascension entre 0,60 et 0,80. Et j'arrive pas à monter ma glycémie, à faire monter ma glycémie. Et je mange tout le paquet de pain pendant toute l'ascension. Et je fais vraiment l'ascension au mental. En fait, à ce moment-là, j'étais dans une période de ma vie où j'avais vraiment la rage contre mon diabète. J'étais dans une profonde colère contre mon corps. Et ce jour-là, je me suis dit, coûte que coûte, diabète, tu vas pas m'empêcher de monter le Machu Picchu. J'ai donné énormément d'énergie et d'argent pour être ici. Et je veux arriver au bout du sommet et je veux le faire pour moi et limite je veux le faire un peu contre toi quoi. Donc j'y vais. Ça a été une heure de l'enfer, mais quand je suis arrivée en haut, j'ai vu t'as la récompense de la vue évidemment qui a coupé le souffle. T'as cette récompense personnelle de te dire j'ai quand même monté le Machu Picchu et t'as la troisième récompense où tu te dis waouh, j'ai réussi à le faire en étant en hypoglycémie tout le long. Donc en fait mon corps il est super puissant. En fait si j'arrive à avoir la dose suffisante de sucre sur moi pour me maintenir à peu près dans un taux de glycémie qui est on va dire acceptable pour mon corps pour continuer à fournir de l'effort. En fait, je peux fournir un effort constant et de qualité sur une activité physique pendant très longtemps. Et du coup, arrivé en haut, ça a été les larmes de joie, un énorme sentiment de fierté. Et surtout, ce jour-là, j'ai compris que en fait, quoi qu'il arrive, tant que j'avais du sucre sur moi, en fait, je pouvais tout réaliser. Et que mon corps, malgré tout, il me soutenait. Malgré que lui, il était en détresse, il continuait quand même de suivre mon mental qui lui disait « vas-y, marche, marche, marche ». Et entre un mental que j'ai forgé ce jour-là, le corps qui m'a soutenu et cet incroyable accomplissement, Et bah, je me rappellerai toute ma vie parce que je sais qu'après ce Machu Picchu, bah, j'ai continué de réaliser plein de choses avec mon diabète que je m'étais interdite avant parce que bah, j'ai pris confiance en mon corps et j'ai compris que tout était possible.
Notre mental, il arrive à nous faire faire des choses incroyables.
Ouais, bien sûr. Et je repensais à une discussion qu'on avait eue toi et moi juste avant cette interview. C'est que à l'époque, moi j'étais, bah, j'avais la pompe, j'étais sous Omnipod. Donc qui plus est, une pompe qui a quand même beaucoup de consommables, qui est assez lourde et tout à porter. Donc aujourd'hui, avec les pompes à tubulure qui sont quand même assez jolies, on peut quand même partir avec moins de matos sur soi que ce que moi j'avais fait à l'époque. Donc moi j'étais sous Omnipod et j'étais sous Dextro parce que il y avait pas les capteurs. Et j'ai quand même réussi à avoir une HbA1c sur tout mon tour du monde à 8,5%. Et du coup, je trouve que pour l'époque, pour la technologie qu'il y avait à l'époque et tout ce que j'ai fait pendant ces 9 mois, je trouve que 8,5 c'est quand même une très belle hémoglobine glycée. Et je pense qu'aujourd'hui, enfin s'il y a des diabétiques qui écoutent et qui veulent faire un tour du monde sous pompe à insuline et maintenant il y a les boucles fermées, franchement, je pense qu'aujourd'hui tu peux faire ton tour du monde sans quasiment avoir aucun impact sur ta santé parce que avec les boucles fermées, tu peux avoir des hémoglobines glycées avec des très beaux chiffres, même en ayant une vie pas du tout routinière. Donc c'est un peu le petit message d'espoir en disant bah voilà, moi j'ai fait mon tour du monde il y a 7 ans. Aujourd'hui, je pense qu'on a les nouvelles technologies qui nous permettent de le faire encore mieux et en étant encore plus tranquille pour sa santé.
Maintenant, on peut tout faire.
Oui.
Enfin, on pouvait tout faire, mais bon, c'était un peu plus compliqué.
Maintenant, on est aidé, quoi. On est aidé, ouais.
Elsa, y a-t-il des ressources en ligne pour voyager en tant que diabétique?
Oui, alors, j'ai fait des petites recherches et j'ai été super agréablement surprise parce que, il y a 7 ans, donc quand j'ai fait mon tour du monde en 2017, quand tu tapais diabète de type 1 et voyage sur Google, tu ne trouvais absolument rien. Moi, je me souviens, j'avais été dévastée à l'époque parce que je cherchais de l'information, je savais pas comment organiser mon voyage et il y avait rien sur Google. Et là, quand tu tapes aujourd'hui diabète de type 1 et voyage, en fait, tu as plein d'articles qui existent, qui sont faits par différents sites internet, qui sont de très bonne qualité. Sincèrement, ils retranscrivent tout ce que j'ai dit dans l'interview aujourd'hui à l'écrit. Donc, si vous voulez aller piocher des infos écrites déjà sur Google, il y a des super articles qui sont faits par la Fédération française des diabétiques. Il y a un site qui s'appelle Beyond Type 1. Si vous êtes à l'aise en anglais, il donne plein de conseils aussi. Le site de la CPAM sur amélie.fr, on trouve des recommandations pour les diabétiques de type 1 qui veulent voyager. Ils ont même un petit support en ligne PDF qu'ils ont créé avec la FFD. Franchement, j'ai été agréablement surprise de voir autant de contenu. Et puis, ce que je peux vous recommander surtout, c'est d'aller suivre sur les réseaux sociaux des personnes qui ont fait le tour du monde ou qui ont beaucoup voyagé. Et il y a pas mal de comptes sur Insta, notamment des femmes qui parlent de leur voyage. Donc, on a par exemple Margot, on la trouve sur Insta sous le nom de Type 1 and 3. On a Les Aventures de Mathilde, on a Aurélie avec son Insta Aurélie Nutrifit et bien sûr je recommanderais toujours Delphine Arduini. Delphine elle a créé un Insta qui s'appelle WDT Community World Diabetes Tour Community et elle est aussi la présidente de l'asso Type 1 Running Team, pareil vous pouvez les trouver sur Insta. Et Delphine, elle avait fait un tour du monde il y a maintenant, je ne saurais dire combien d'années. Et elle, c'était la première diabétique que j'avais trouvée sur les réseaux à l'époque, à qui j'avais parlé de mon projet tour du monde. Et c'était même la seule qui existait sur la toile à l'époque. C'est grâce à elle que j'ai pu organiser mon voyage, puisqu'elle m'avait donné tous les petits conseils que je vous ai donnés aujourd'hui. Mais en tout cas, l'info est beaucoup plus accessible. Et aussi, j'en profite pour parler un petit peu de l'asso, les DS sucrés, parce que nous, on organise tous les ans une croisière zen. Donc en fait, c'est un voyage d'une semaine sur un catamaran pour les femmes diabétiques de type 1. Et donc, si par exemple, vous avez un peu peur de voyager avec votre diabète ou même de voyager seul, etc., ça peut faire une première expérience de voyage avec d'autres diabétiques, encadré dans un séjour qui est fait pour les diabétiques de type 1. Donc, ça permet d'apprendre les bases et de prendre confiance en soi pour les prochains voyages. Il existe aussi Sugar Palace qui va proposer un premier voyage autour du diabète et du surf bientôt sur l'été 2024. Donc pareil, pour faire une sortie entre diabétiques, ça permet d'apprendre les bons réflexes et de se sentir entouré, encadré si jamais ça vous crée trop d'angoisse. Et puis, alors ça, je veux absolument le partager parce que j'étais bluffée. En faisant mes petites recherches, j'ai trouvé une nana qui est britannique. Elle s'appelle Julie Kieffer sur les réseaux. Et en fait, elle a créé une agence de voyage pour les diabétiques de type 1. Ça s'appelle The Diabetic Traveling Network. En fait, elle propose tous les ans des voyages organisés pour les DT1. Et je vous le dis en off, c'est un peu mon rêve de créer ça aussi. Mais du coup, je savais pas que ça existait déjà. Donc, je trouve que c'est une super opportunité aussi, pourquoi pas, pour voyager entre diabétiques et apprendre un petit peu toutes les petits tips pour être plus à l'aise par la suite.
Cette personne, elle est au Royaume-Uni, tu as dit?
Oui.
Donc, toi, tu peux créer quelque chose made in France?
Mais oui, j'aimerais beaucoup. Bon, on fait déjà la croisière zen avec les DS, c'est un très beau projet. Et puis, je pense que dans les mois et années à venir, on créera d'autres types de séjours. Bon, pour le coup, c'est uniquement pour les femmes diabétiques de type 1, parce que c'est la mission de notre asso, c'est d'apporter du soutien aux femmes qui ont un diabète. Dans un futur moyen à long terme, on espère créer d'autres types de séjours et toujours avec ce prisme de vue sur la santé mentale et sur le bien-être.
Tous les renseignements et d'ailleurs toute l'interview sera retranscrite sur mon site internet vivrelediabete.fr pour avoir toutes les informations que nous a donné Elsa. Elsa, est-ce que tu aurais un dernier conseil à nous donner?
Alors, mon dernier conseil, ce serait de vous dire surtout, soyez vivant avant d'être malade. C'est une magnifique phrase que j'ai empruntée à ma sœur sucrée, Chloé Néer, qui est sortie de son livre 1,12 g. Voilà, vivez avant d'être malade. La maladie peut s'adapter à tous vos choix. Le diabète peut s'adapter à tous vos choix de vie, à tous vos challenges, à tout ce qui peut vous faire vibrer. Ne vous limitez pas. Vous verrez que c'est en faisant les choses que vous rendrez compte qu'en réalité, tout est possible. Et comme avec tout dans le diabète, il faut tester, sortir de sa zone de confiance, accepter qu'il y aura peut-être des échecs, mais surtout que ces échecs, ce seront des apprentissages pour mieux recommencer, au fur et à mesure réaliser de plus en plus de rêves. Donc, lancez-vous. Si vous avez peur du voyage, commencez petit à petit. Commencez par un petit week-end dans une grande ville d'Europe. Comme ça, vous êtes sûr que vous pourrez avoir accès à tout s'il y a une éventualité. Et puis, petit à petit, vous agrandissez le cadre du voyage avec un voyage peut-être un peu plus loin, un peu plus de temps. Vous prendrez confiance au fur et à mesure. Et puis, au bout de quelques essais, vous serez super méfié. Et puis, vous pourrez faire n'importe quel voyage. Vous vous rendrez compte que le diabète sera toujours votre allié, votre petit binôme. Et puis, que vous vivrez des tellement belles expériences ensemble qu'au final, le diabète ne sera plus un lourd poids à porter, mais simplement une petite béquille à côté qu'il faudra toujours, qu'il faudra toujours en prendre soin. Mais elle ne vous empêchera pas d'avancer.
Écoute, Elsa, franchement, tu nous as donné plein d'infos plein de belles choses, plein de bonnes idées, de rêves. On a voyagé ensemble. Franchement, j'espère que ça va aider plein de gens.
Oui, merci à toi de me donner l'espace de parole et la chance de pouvoir parler de cette expérience. Et j'espère aussi que ça aidera plein de diabétiques à avoir le déclic. Et puis, bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur mon Instagram et je vous répondrai avec grand plaisir.
Encore merci Elsa et au revoir tout le monde et prenez bien soin de vous.
Au revoir, merci beaucoup.
Je te remercie pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, que tu souhaites soutenir le podcast, je t'invite à le partager autour de toi, à t'abonner pour être averti du prochain épisode, à laisser 5 étoiles et un avis sur ta plateforme d'écoute. Tu as la possibilité aussi de me contacter, soit sur mon compte Instagram, soit par email que tu trouveras dans les notes du podcast. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Vivre le diabète à la recherche de l'équilibre. Prends bien soin de toi.